Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Il y a deux semaines, on se posait la question de l'existence ou non du sublime de nos jours, dans l'art notamment. Eh ben, ça tombe bien, le Musée des Beaux-Arts de Québec présente jusqu'au 2 mai prochain une exposition intitulée justement « Turner et le sublime ». Une exposition, je le rappelle, consacrée aux peintres romantiques britanniques. Maintenant, qu'est-ce qui définit le sublime? Quels en sont les effets et quel rapport ce sublime a-t-il avec la beauté esthétique ou religieuse? Point de vue avec François Méville-Deschênes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul, également formé en histoire, mais surtout chroniqueur à cette émission. Bonjour François.
Bonjour Jean-Philippe.
Vous êtes à Québec, vous êtes allé donc au Musée des Beaux-Arts de Québec pour voir cette exposition consacrée à William Turner. Vous avez aimé ça?
J'ai adoré, j'ai aimé, effectivement. C'était sublime, c'est le cas de le dire. Donc, c'est là que tout a commencé. Je précise que c'était au Musée national des Beaux-Arts du Québec, à Québec.
Pardonnez-moi. C'est national, hein? Tout à fait.
Oui, voilà, c'est national, exactement.
Turner, c'est un peintre britannique romantique, donc 19e siècle?
Oui, 19e siècle. Oui, la grande partie de son œuvre a été jusqu'en première moitié du 19e siècle. Dans le courant, a lancé, si on peut dire, ou a été un des initiateurs du courant romantique, où on délaisse le classicisme, les règles strictes, l'équilibre, pour aller vers la subjectivité, l'émotion, la description des passions, et aussi la terreur, la peur, la crainte. Le sublime a été... on a essayé de le cerner, plusieurs auteurs ont essayé de le cerner. Celui qui a influencé beaucoup Turner, semble-t-il, et que dans l'exposition, on met en rapport avec lui, c'est un de ses contemporains, un homme britannique, Edmund Burke, qui est un homme de lettres anglais, qui a écrit, lui, en 1757, « La recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau ».
Quel titre merveilleux! Imaginez aujourd'hui quelqu'un sortirait ça.
Oui, ben tantôt je vais vous en sortir un autre.
Ouais.
Cela dit, c'est le premier qui a circonscrit les définitions respectives du beau et du sublime, qui a distingué les deux.
Ah, donc le beau et le sublime, ce ne sont pas deux choses semblables, en tout cas pour Edmund Burke au 18e siècle.
Exactement. Alors, D'accord. Le beau, je le comparais il y a deux semaines à quelque chose... Lui, il dit que c'est joli, c'est mignon. Alors, moi, je comparais ça à un œuf de Fabergé. Tandis que le sublime, et c'est sur ça, je crois qu'on s'était laissé, c'était un peu comme marcher sur la corde raide. Parce que le sublime, c'est décrit comme une terreur délicieuse. C'est un danger que l'on contemple, qui est assez lointain pour ne pas nous menacer directement, mais assez proche pour nous faire peur. Et c'est aussi une esthétique, et je cite, de la rudesse, de la violence, de la soudaineté. Bref, le contraire de l'œuf Fabergé qui est beau.
Alors, on est en plein romantisme. Le romantisme, si je vous comprends bien, François-Méville Deschênes, et je peux rajouter également, je ne crois pas que je révèle un secret, vous êtes vous-même peintre, donc vous parlez en connaissance de cause également. Le romantisme et le sublime qui vient avec le romantisme au 19e siècle est quelque chose, je ne dirais pas qu'il tord les émotions, mais ça dépasse les capacités strictement humaines. On va vraiment au fin fond de la psyché, on va vers les sommets, on est déchiré dans tous les sens. Quelque chose n'est pas juste bleu, c'est bleu vif. On est vraiment dans la surhumanisation, si j'ose dire.
Je vous écoute, Jean-Philippe, et je crois que vous avez vécu le sublime vous-même pour le décrire de la sorte. Alors oui, je ne vais pas répéter ce que vous venez de dire.
Mais le peintre, c'est vous.
C'est tout à fait cela, c'est tout à fait cela. Ouais. Et donc, on se posait la question, mais est-ce que ça existe encore, le sublime? Parce que le romantisme a laissé la place, donc, mi-19e siècle, à d'autres...
Ouais.
Recourant, et dont l'art moderne, puis maintenant l'art contemporain, qui ne veut pas dire qu'il ne provoque pas d'émotion, mais ne recherche peut-être pas autant l'émotion que dans le romantisme. Et
d'accord.
J'ai regardé un petit peu, et j'ai trouvé trois exemples. D'abord, un auteur, écrivain, critique, du nom de Romaric Sangarts, J'ai déjà fait le compte-rendu de son livre « Conversion paru en 2018 » sur les ondes de Radio VM, mais dans le cadre d'une autre émission. Cet homme qui est pas vieux, il est encore dans la quarantaine. Donc, son livre « Conversion » m'avait beaucoup ému. Et là, en pensant au beau et au sublime, à la distinction, j'ai pensé à lui. Parce que cet homme, en 2015, avait écrit un livre, un essai qui s'intitule ainsi, voici encore un grand titre. « Suffirait-il d'aller gifler Jean d'Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française? »
À qui est Jean d'Ormesson?
Jean d'Ormesson, grand écrivain français, décédé pas très longtemps après, en 2018, je crois, membre de l'Académie française, un brillant écrivain qui écrit bien, qui manie très bien la langue française, qui faisait partie de la noblesse, qui représente tout l'esprit français du beau siècle, si on peut dire.
Classique, élégant,
voilà.
Un peu superficiel quelquefois?
Je ne crois pas qu'il soit superficiel, pas dans ce que j'ai lu, mais Vincent Garst, lui, le trouvait comme ça, et il disait qu'il se défilait lorsque on parlait de terreur ou qu'on remettait en cause des concepts fondamentaux. Alors, tout ça pour vous dire que Romaric Sangar, c'était lui-même, donc, a pourfendu cette notion du beau qui ressemble pas mal à celle de Burke. Oui. Et lui-même, dans son livre « Conversion », donc où il décrit sa conversion vers le catholicisme, ou un catholicisme engagé, à travers différentes facettes de sa vie. Mais il nous parle, entre autres, de la musique, du rôle que la musique a eu. Et là, je vous explique tout de suite lui et ses copains. L'artiste qu'ils aimaient s'appelle Genesis Porridge, rocker anglais des années 60-70, figure... Oui. Très flou, parce qu'un des premiers à passer d'être transgenre, si vous voulez, que d'un homme, il est passé à être une femme, tout en gardant ce flou-là. Bon, bref, en faisant un rock assez brutal. Alors, Sangars et ses amis étaient des fans, et voici ce qu'il écrit. « Nous cultivions de manière brouillonne, forcenée, primitive, le contact avec une transcendance, l'être. » Ça, c'était en écoutant sa musique. Il nous arrivait de pressentir comment la transe pouvait être conçue comme une forme de connaissance authentique, périlleuse, mais pertinente. Ne sommes-nous pas là au plein cœur de la définition du sublime?
Une connaissance authentique, périlleuse.
Périlleuse, alors on a vraiment le côté de la terreur, là, de Burke, mais pertinente. Et Burke et Turner, effectivement, s'ils font ce qu'ils ont fait, si l'un écrit ce qu'il a écrit et l'autre peint ce qu'il a peint, ben c'est qu'ils trouvent ça pertinent, n'est-ce pas?
François, il y a quelque chose qui me chicote dans ce que vous dites.
Oui.
On est vraiment, je crois, dans le cœur du problème du sublime, puisque là, vous parlez de ceci à l'occasion de l'exposition consacrée à William Turner jusqu'au 2 mai au Musée national. Voilà, Musée national des beaux-arts de Québec.
Du Québec à Québec, oui.
Vous allez me compliquer l'existence, vous. Le sublime, alors voilà, voici les trois qualificatifs. Connaissance authentique, on est dans le vrai. Le péril, périlleuse, connaissance périlleuse, mais également pertinente. Pour moi, pertinent est rationnel, démontrable, à la limite bourgeois, si vous voulez. Périlleux, on est vraiment dans l'artiste, dans la psyché, dans la tourmente, évidemment, et le gouffre sans fond, et authentique, on est dans la vérité. Oui. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs étages au sublime, tel que vous l'entendez, vous, François Bouville-Deschênes.
C'est tel que Romaric Sangars l'entend, et je ne crois pas, contrairement à ce que vous venez de dire, que le pertinent soit toujours quelque chose de logique et de démontrable. C'est-à-dire, je crois qu'on sent la pertinence de quelque chose dans nos vies, et parfois on n'est pas capable d'expliquer pourquoi. C'est que ça va bien, ça entre, ça s'encastre dans notre vie ou dans notre vie émotive, sans qu'on soit capable de le dire. Mm-hmm. Parce que des fois, on sait intuitivement qu'est-ce qui est pertinent pour nous ou ne l'est pas. Mais cela dit, j'adhère, si vous voulez, au propos de Sangars, sans pouvoir aller plus loin, parce que justement, je trouve ça, je vais faire une tautologie, mais je trouve ça inexplicable, moi aussi, de la même façon, des fois la pertinence est aussi inexplicable.
Bon, ben ça nous avance bien.
Ça nous avance bien, mais là je vais vous amener un autre exemple. J'ai rencontré le sublime dans ma vie. Mm-hmm. C'était lors d'un concert du chœur de la chapelle Sixtine il y a 2 ans à Québec, à la cathédrale de Québec.
Celle du Vatican?
Oui, exactement.
La chapelle du Vatican, je veux dire, oui.
La chorale du pape, voilà.
Oui.
Ils sont venus il y a 2 ans
oui.
À l'invitation de notre archevêque. Oui. Et j'ai eu l'occasion et la chance d'être leur attaché de presse. D'accord? Wow. Alors, j'ai pu rencontrer, c'est formé d'hommes jeunes, en général sous la quarantaine, mmh. et de jeunes garçons qui ont encore leur voix aiguë, prépubère.
D'accord.
Et c'est le chœur qui chante dans toutes les célébrations où le pape officie. Peut-être pas maintenant en temps de pandémie, là, mais en temps normal, c'est une chorale qui est pluricentenaire, je pense que c'est 400 ou 500 ans.
Bon. En fait, j'ai regardé, ça a été fondé en 1471.
Bon.
On peut parler de manécanterie dans ce cas-là, c'est une des plus vieilles manécanteries oui. au monde.
Oui, exactement, exactement. Hein?
Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme, comme effet sur vous?
Donc moi j'ai eu l'occasion de m'approcher d'eux, j'étais leur attaché de presse, donc je les ai vus arriver en autobus, ils arrivaient de Toronto, fatigués, pas rasés, décoiffés, c'est vraiment une gang d'hommes qui sortent de l'autobus, comme ça aurait pu être un club de foot, ça aurait pu être une conférence d'ingénieurs, peu importe, mais très humains dans leur humanité, et moi j'ai eu à négocier aussi pour eux, parce que j'avais invité les médias de Québec, et là, il me fallait trouver quelqu'un qui veuille parler, qui veut parler français ou alors anglais, puis qui n'est pas... Bon, voilà. Alors, c'était très, très terre-à-terre et très humain. J'ai été aussi, lors de leur concert le lendemain soir, le maître de cérémonie. Donc, j'intervenais tous les 2 ou 3 morceaux pour expliquer ce qui s'en venait, donner un contexte aux pièces musicales qui s'en venaient, et j'avais des textes, mais j'avais dû tout traduire ça en français. Alors là, c'est une négociation avec telle et telle personne pour dire comment on va dire ça en français alors qu'on avait des textes en anglais et italien. Bon, bref. Bref, j'ai vu le côté technique, terre-à-terre, très humain.
Et vous êtes dit, quand ça va chanter, ça va être technique, terre-à-terre et humain également.
Je me suis rien dit, mais effectivement, alors moi j'étais assis, alors là il faut s'imaginer dans le cœur de la cathédrale de Québec, sous le baldaquin doré, toutes les statues dorées, tapis rouge, et là vous voyez tout à coup ces jeunes hommes et ces enfants qui étaient turbulents, comme tous les garçons, qui arrivent en soutane rouge, surplis avec la dentelle, et qui se mettent à chanter, sous la direction effectivement de leur maestro, ils se mettent à chanter qui vous transporte. Alors là, vous avez plus d'hommes, vous avez des êtres quasi spirituels. Vous avez plus de petits garçons turbulents qui crient, qui courent. Vous avez encore là des êtres quasi spirituels qui, sous la direction de ce maestro-là, qui était vraiment formidable, vous amène ailleurs, vous font monter sous ce baldaquin doré. C'était incroyable. Je l'ai vécu, le sublime. Moi, par exemple, je devenais revenir sur Terre assez rapidement parce que, comme je vous dis, je faisais une intervention périodique. Mais j'avais affaire à être sublime, moi aussi, pour pas faire baisser la qualité du spectacle.
Pardonnez-moi, êtes-vous du genre, François Muil-Deschenes, à penser que quand on vit une expérience sublime, les mots... ensuite, pour en rendre compte, sont trop faibles, insuffisants. On balbutie, on a l'air maladroit. Parce
tout
que
à fait.
Le film dépasse toute forme de description, finalement, non?
Tout à fait. C'est ce que je ressens moi-même. Disons que je n'aurais pas les mots pour vous décrire une prestation musicale. Comme vous mentionnez, je suis meilleur dans les arts graphiques. Mais cela dit, même pour Turner, je n'avais plus de mots pour vous le décrire. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, et c'est la même chose pour le chœur de la chapelle Sixtine. Alors, pour vous dire que de grands mecs poilus et de petits garçons qui courent partout, on a tout à coup un sublime, quelque chose qui nous prend à l'âme, qui nous prend aux tripes, plus qu'aux tripes, à l'âme, et qui nous amène vers en l'occurrence vers Dieu, en ce qui me concerne, et, oui. et c'était leur but aussi, c'est la chapelle Sixtine, mais voilà, qu'ils nous sortent de notre condition humaine.
Qu'ils nous sortent de nous-mêmes aussi. François Méville-Deschênes, oui. il nous reste 4 minutes et demie. Les orthodoxes sont assez forts, non, sur le sublime,
ben, y en a un
notamment dans
moins.
La musique.
Il y en a moins à tout, un à tout le moins, donc c'est Stéphanos, qui est le métropolite de Tallinn et de l'Estonie, qui oui. a commis un autre essai philosophique qui s'intitule, en 2005, qui s'intitule « Pour un essai de la théologie de la beauté ». Alors lui ne fait pas la différence entre la beauté et le sublime. Pour lui, il y a la beauté, donc la beauté perdue du paradis terrestre, la beauté que l'être humain tente de recréer, et... Le troisième niveau de beauté, c'est Jésus sur la croix.
Quoi?
Croix de sang et de lumière. Et là, je me disais, en lisant cela, mais pourquoi est-ce qu'on ne sublime pas Jésus? Alors, si on regarde ça, puis j'avais dans la tête les images du film de Mel Gibson, La Passion.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on voit là? On voit vraiment un homme tout nu, couvert de sang, littéralement, souffrant, qui meurt sur une croix en bois brut. C'est sale. Et là, c'est un après-midi d'orage.
Oui.
C'est pas du Turner, ça? C'est pas du sublime? Et pourtant, ce n'est pas quelque chose... Alors, voyez-vous, là, on voit le danger dans le Christ, parce que ça pourrait, bon, peut-être nous arriver. Mm-hmm. On voit la rudesse, on voit la violence... Et pourtant, ce qu'on nous présente comme image du Christ, ben c'est ce Christ aux yeux bleus, aux cheveux châtains, qui saigne même pas sur sa croix.
Dont les dents sont impeccablement alignées et blanches comme s'il se brossait les dents avec du Colgate.
Oui, tout à fait. Et puis qui est comme épilé alors qu'il devait être super poilu. Alors voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que en nous présentant cet aspect sublime du Christ, dans la ligne, dans le fond, de ce qu'il vient de se dire, y compris le Monseigneur Stéphanos, peut-être que là, on serait amené, que l'image du Christ et la religion, la foi qui s'ensuit, bien sûr, nous amènerait vers le sublime et réattirerait peut-être des gens vers la foi catholique, chrétienne, à tout le moins.
François Méville-Deschênes, je vais traduire ce que vous dites dans mes propres paroles.
Oui.
Le sublime, si je vous comprends bien, force l'être humain ou le spectateur ou le témoin en tout cas, quel qu'il soit, ça le fait sortir de lui-même, de ses limites quotidiennes, de son intelligence. Il se dépasse lui-même, ce qui rappelle le mot de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Par le sublime, on arrive à cela. Et le sublime, ça comprend le sang sur la croix et ça comprend la lumière. Je veux dire, l'amour divin, c'est au-delà du bien et du mal. On est dans une autre dimension et qui nous fait craquer notre propre être, notre propre peau. C'est bien ça, et c'est ça que vous aimeriez retrouver dans le christianisme au Québec.
Ben, effectivement, oui, j'aimerais bien, parce qu'il me semble que ça vient chercher quelque chose de primordial en nous.
Oui.
Et malheureusement, je suis désolé, mais c'est pas en écoutant les stations de télé commerciales auxquelles on a accès qu'on retrouve du sublime en général, et des grands poètes et des grands peintres qui décrivaient, illustraient le sublime, ben c'est pas la mode vraiment. Alors il me semble que j'aimerais que ça revienne. Voyez-vous, ne serait-ce que comme par l'art du vitrail, par exemple, comme Sangars a fini sa conversion à la cathédrale à Chartres. Et mon Dieu, on ressent la même chose que qu'en écoutant la chapelle, le cœur de la chapelle Sixtine.
Alors, je vous fais un souhait personnel, François Méville-Deschênes, et on va finir là-dessus, c'est que vous-même, vous incarniez ce que vous souhaitez dans votre propre vie, ou du moins dans votre fort intérieur, dans votre prière.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul, également très intéressé et formé en histoire. Vous nous parliez donc à l'occasion de cette exposition consacrée à William Turner, le peintre britannique romantique, une exposition qui dure jusqu'au 2 mai prochain à Québec, au Musée national des Beaux-Arts. C'était l'occasion de réfléchir au sublime dans l'art et dans la vie en général. François Méville-Deschênes, merci infiniment. On vous retrouve dans deux mois, dans deux semaines.
Dans deux semaines, je serai au rendez-vous.
Allez, au revoir.
Merci Jean-Philippe.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, des nouvelles économiques, ou de l'économie, ou sur l'économie, et la théorie du genre et le christianisme à la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci, qui vous invite à rester qui vous invite à un prochain rendez-vous demain, et entre-temps, vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.